Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui, pour une fois, va déroger à sa tradition, puisque les auditeurs qui écoutent 24 notes secondes par le biais de la rediffusion et que je remercie m'en pardonneront, mais je voulais quand même célébrer à l'antenne avec la famille de Divergence qui est la station de radio productrice de l'émission, la 500e émission de 24 notes secondes. Une aventure commencée en 2006 qui se poursuit encore, et j'espère qu'elle se poursuivra encore longtemps, en avant pour la millième. Donc voilà, je me permets de m'auto-souhaiter un bon anniversaire à 24 notes secondes pour l'occasion, mais c'était tout ce que je voulais dire et on va enchaîner. Et quoi de mieux pour célébrer ces 500e émissions qu'un réalisateur français qui est devenu l'un des plus classiques des réalisateurs américains, en l'espèce William Wyler, qu'on imagine avec son nom comme un réalisateur américain. Et de fait, il l'était d'origine, mais qui est né le 1er juillet 1902 dans la bonne ville de Mulhouse, en Alsace. Il est d'abord, il fait ses études à Paris, et puis ensuite, il part à Lausanne. Et puis, à partir de 1919, donc relativement tôt, à l'âge de 17 ans, vous l'aurez compris, il rejoint Hollywood comme assistant de réalisation. Pendant les années 20, il sera le réalisateur d'une trentaine de petits westerns de complément, autant dire des films à petit budget et à petites ambitions, mais qui lui permettent de se rôder aux techniques des studios américains et du coup de devenir ensuite un des symboles du classicisme hollywoodien. Il devient d'ailleurs américain en 1928, donc il est né français, mais il n'est pas mort français. Et là encore, il affermit sa réputation tout au long des années 30 avant de rencontrer un premier succès en 1936 avec un film intitulé Dolls Wars, inspiré d'un roman de Sinclair Lewis, qui fut aussi l'auteur de Babbitt, un grand chroniqueur de la vie bourgeoise américaine. Il termine Le Vandale, un film commencé par Howard Hawks et pas terminé par lui pour des raisons inexpliquées. Et puis son premier vrai succès, et on va écouter un extrait de la bande originale de ce premier vrai succès. C'est un film tourné en 1937 d'après un roman, une pièce de Sidney Kingsley intitulée « Rue sans issue ». Un film qui se passe quelque part dans l'East Side de New York où l'on voit cohabiter des très riches avec des très pauvres. Maintenant, ça n'existe plus puisqu'il n'y a plus que des très pauvres, que des très riches à New York et dans d'autres villes d'ailleurs. Mais à l'époque, on cohabitait encore entre riches et pauvres. S'ensuit bien sûr des intrications dramatiques. Alors un film peut-être un peu compassé et tourné dans un unique et magnifique décor, mais qui rappelle un peu trop l'origine théâtrale de la chose, mais avec quels interprètes, puisque dans les rôles principaux, on retrouve Sylvia Sidney, Joel McRae et Humphrey Bogart, qui n'est pas encore aussi connu qu'il le deviendra dans les années 40, qui par conséquent n'a pas le rôle principal, mais qui s'impose. Humphrey Bogart a quand même tourné beaucoup, beaucoup avant de devenir une grande vedette, mais dans Rue sans issue, alias Dead End in English, eh bien, c'est un des premiers rôles qu'il impose. La musique du film, elle est signée d'Alfred Newman, encore un grand classique hollywoodien. On en écoute un extrait. Rue sans issue, William Wyler. C'est la 500e de 24 notes secondes. Thank you. Un extrait où on peut sentir des influences très gershwinesques de la partition de Rue sans issue, une musique d'Alfred Newman, un film de William Wyler tourné en 1937. Et autant la première partie de carrière de William Wyler avait été faite de petits films sans prétention, autant à partir du succès de Rue sans issue, eh bien, ne tournera plus que des films de prestige, donc il en tournera beaucoup moins que dans ses débuts, mais ma foi, dans ses films, il y a quand même quelques chefs-d'œuvre, même si on a pu reprocher, et les critiques français, notamment Nenger, William Wyler, on a pu lui reprocher un très très grand classicisme, mais comme l'on dit, le classicisme, il n'y a que ça qui dure, c'est comme 24 notes secondes. Ensuite, après Rue sans issue, eh bien, il fera une première rencontre avec Bette Davis pour L'Insoumise, Jezabel, tournée en 1938, en 1939, il connaîtra un des sommets de sa carrière en adaptant, ce n'était ni le premier ni le dernier, Les Hauts de Hurlevent, ou Hurlevent, ça dépend des traductions, signé par cette chère Émilie Brontë, avec dans les rôles principaux Laurence Olivier et Merle Oberon, une adaptation vraiment très réussie, même s'il n'y a rien qu'en passé, donc comme on le disait. Et puis en 1940, il retrouve à nouveau Bette Davis, qui était une sorte de monstre sacré du cinéma américain. Parfois apparemment pas très facile à diriger, mais il faut croire que ces deux-là s'entendirent bien, puisqu'ils avaient déjà tourné Jezabel 2 ans avant. Et qu'en 1940, ils tournèrent La Lettre, inspirée d'une nouvelle de Somerset Maugham. Je vous l'épelle comme ça, après vous saurez le placer en société. M-A-U-G-H-A-M. Maugham, non, Maugham, on dit. Hein, et je ne vais pas vous le refaire une deuxième fois. Vous pouvez le placer. Une nouvelle qui avait déjà été adaptée à plusieurs reprises au cinéma. Au moins 4, d'après ma petite fiche, qui ne se trompe jamais. Et qu'il sera ensuite, d'ailleurs, Les Bonnes Recettes ne trompent jamais. Un film dans lequel on retrouve donc Bette Davis, comme je l'ai déjà indiqué, avec à ses côtés Herbert Marshall, un acteur un peu oublié, mais qui était quand même un solide premier rôle du cinéma américain des années 40. On reste dans le classicisme hollywoodien pour ce qui est de la musique, puisqu'elle n'est plus signée Alfred Newman, mais elle est signée d'un de ses alter-ego, si l'on peut dire, en matière de âge d'or de la musique de film hollywoodien, le grand Max Steiner, qui venait de composer la partition Fleuve d'Autant en emporte le vent l'année précédente, et qui donc, en 1940, signa la bande originale de La Lettre, The Letter, dans 24 notes secondes. De larges extraits de la bande originale composée par Max Steiner pour La Lettre, The Letter, un film de William Wyler inspiré d'une nouvelle de... Ah, vous n'avez pas suivi. Somerset Maugham, tourné en 1940, un triomphe pour William Wyler qui, dans ces années-là, les enchaîna, il faut bien le dire, puisqu'en 1942, on vit Madame Miniver avec Greer Garson dans le rôle principal, qui lui valut son premier Oscar du meilleur réalisateur et qui fut un succès considérable, notamment aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, puisque le sujet était quand même très, très anglo-saxon. Et en 1946, eh bien, William Wyler tourna ce qu'on peut considérer comme une sorte de film de commande, un film consacré au retour des soldats américains dans leur patrie après la fin de la Seconde Guerre mondiale, au retour parfois difficile, on le sait. Alors le sujet était un peu, passez-moi l'expression, casse-gueule, mais ma foi, grâce au roman duquel le film s'inspirait, au scénario de Robert Sherwood, à la réalisation de Wyler et puis aussi à des interprètes exceptionnels, eh bien ce fut une grande réussite. Parmi les interprètes exceptionnels, il y avait Frederick March, mais on dit Frederick March, Myrna Loy, Dana Andrews, etc., etc. Alors, on aurait pu considérer ça comme démagogique, mais ma foi, le film ne l'était pas démagogique. Et il récolta cette année-là une pluie d'Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur à nouveau pour William Wyler, meilleur acteur principal et aussi meilleure adaptation, je vous en passe. Et une curiosité, puisque l'un des interprètes du film était un vrai mutilé de guerre, Harold Russell. Ce fut son seul film et il obtint l'Oscar du second rôle pour l'occasion. Je pense que c'est le seul cas du genre. On va écouter un extrait de la bande originale de ce film. Les plus belles années de notre vie, ça s'appelle, je ne vous l'avais même pas encore dit, je suis troublé. La musique, elle est signée d'Hugo Friedhofer dans 24 notes secondes. De larges extraits de la bande originale des plus belles années de notre vie, The Best Years of Our Lives, un film de William Wyler tourné en 1946, c'est une musique de Hugo Friedhofer, le film qu'il fallait pour accueillir eh bien, quand même des gens qui s'étaient battus pour la liberté et qui retrouvaient des gens qui avaient continué à vivre leur petite vie. Une histoire relativement classique, mais fort bien traitée par le tenant du classicisme hollywoodien qui était William Wyler, qui continua dans les années qui suivirent une carrière des plus prestigieuses. On vit entre autres, hein, je ne vais pas tout citer, mais L'Héritière en 1949 avec Olivia de Havilland. On vit, et là c'est spécial dédicace, Vacances romaines en 1953 qui donna son premier vrai grand rôle et son premier Oscar à Audrey Hepburn, dont les fidèles de 24 secondes savent que c'est mon ange. On vit en 1956 La Loi du Seigneur avec Gary Cooper qui obtint la Palme d'Or au Festival de Cannes. On vit La Rumeur avec cette même Audrey en 1961. William Wyler tourna son dernier film en 1970. Ça s'appelle On n'achète pas le silence. Il mourra comme il se doit à Beverly Hills en Californie le 27 juillet 1981 après une carrière, ma foi, fort bien remplie pour quelqu'un qui était né en 1902 à Mulhouse, et on va se quitter en écoutant un large extrait d'une bande originale monstre pour un film qui n'était pas moins monstre, évidemment signé de William Wyler. Le film, il s'appelle Ben-Hur, tourné en 1959 avec Charlton Heston, nul ne l'ignore, dans le rôle de Judas Ben-Hur, avec Jack Hawkins, Stephen Boyd, etc., etc. Un roman de Lee Wallace qui avait déjà été tourné à plusieurs reprises, mais jamais avec des moyens aussi considérables. Personne n'a oublié la course de chars de Ben-Hur, qui n'avait pas de musique, je vous le rappelle. Personne non plus n'aura, je l'espère, oublié la partition signée Miklos Rossa, qui est sans doute ce que je pouvais espérer de mieux pour fêter la 500e de 24 notes secondes. Thank you. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. En route vers la 1000e émission. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.